RKS, bienvenue dans l'esprit grenoblois. Et voilà, tout part en sucette. Giscard n'est plus à la barre. Ça sent le sapin pour Anne Sylvestre. Les Suisses ne viendront pas skier à Champs-Rousses. France Culture invite en direct Plastic Bertrand. Et pendant ce temps, le président parle sur YouTube, sur Facebook et sur Twitch. Et nous alors, à RKS, eh bien voilà que l'équipe du Miroir des Sciences est de retour en studio. Donc, bienvenue dans l'esprit grenoblois. Vous avez le droit à votre propre opinion, mais pas à vos propres faits. Parole de Paul Romer, prix Nobel d'économie 2018. Voici donc le Miroir des Sciences, une émission de François Legrand et Sébastien Berger. Et si, pour se passer des engrais chimiques, on valorisait nos excréments? En janvier dernier, bien avant les affres de la bête à picot, avec Isabelle Chen, étudiante de Paris-Saclay, je suis allé rencontrer une anthropologue et une designer qui travaillent sur la collecte et la valorisation de l'urine en milieu urbain. Marine Legrand est chargée de l'animation du projet Okapi, piloté par Fabien Esculier à l'école des Ponts et Chaussées de Champs-sur-Marne. Et ensemble, ils s'intéressent au cycle biogéochimique en ville et en particulier à la gestion des excrétions urbaines de nutriments. Quant à Louise Raguet, elle a conçu et réalisé... bon appétit, 10h du matin sur RKS. Quant à Louise Raguet, elle a conçu et réalisé une urinoir sec pour femmes. Le but, c'est de réduire les files d'attente dans les toilettes des filles et de collecter l'urine pour la valoriser. Mais c'est aussi une revendication pour l'égalité des sexes et la réduction de l'impact environnemental des grandes métropoles. On va parler de ça dans un instant. Et en fin d'émission, nous aurons le plaisir d'avoir la chronique de Simon Chupin, ci-devant résident du Media Lab de la Casemate, le centre de culture scientifique de Grenoble. J'ai deviné de quoi vous allez nous parler, Simon. Je pense que vous allez évidemment nous parler de Twitch et de Macron, c'est bien ça?
Non, presque. Mais...
Ah, j'ai raté.
Mais bonjour à tous les auditeurs. Je vous parlerai de jeux vidéo, de la science du jeu vidéo, et plus particulièrement du gameplay.
Et pour ma part, je vous proposerai une séquence retour vers le futur avec une évocation de l'héritage techno-scientifique de l'époque 1974-1980. Ce sera pour la fin de l'émission. Alors, conversation déambulatoire au grand voisin à Paris en janvier dernier, à la découverte de ces nouvelles toilettes sèches et de leur potentiel pour changer la ville et la vie.
Louise Raguet.
Marine Legrand.
Et qu'est-ce que vous faites ?
Je suis designer et je travaille sur la valorisation agricole de l'urine.
Je suis anthropologue et je travaille sur les pratiques écologiques en contexte urbain.
Et là, on est au grand voisin, on est en train de boire un verre avant d'aller visiter un des dispositifs qui justement a été mis en place dans le cadre du projet Okapi qui va nous occuper tout au long de l'émission, c'est ça ?
Tout à fait.
Alors on avance, on vous suit dans l'ambiance. Comment s'appelle le café, là ?
Ici, on est à l'Oratoire, donc il y a un café-restaurant, et ça sent très bon, ça sent le curry.
Et la cannelle aussi, peut-être un peu le vin chaud. Donc on peut dire un mot sur les grands voisins ? Je ne sais pas si vous pouvez, Marine, nous en dire deux mots pour situer le lieu qui donc se trouve à deux pas du RER d'Enfer Rochefort, en plein Paris.
Ouais. Alors le projet des grands voisins, c'est en fait l'occupation temporaire de l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul qui a fermé en 2013, je crois. Et donc avant qu'il y ait un nouveau projet immobilier qui soit installé sur ce site. Et donc ce site a accueilli pendant la saison 1 des grands voisins, donc 600 places d'hébergement d'urgence pour des personnes à la rue, plus des ateliers d'artistes, des espaces de travail pour des jeunes travailleurs indépendants, ça peut être des journalistes indépendants, des designers. Surtout des gens qui sont indépendants et qui ont besoin d'espace de travail. Et donc là, ils étaient loués...
Des créatifs, on va dire, au sens large.
Voilà. Et en fait, ils étaient loués à des prix assez modestes par l'association qui s'appelle le Plateau Urbain et dont c'est vraiment l'activité de, d'occuper des espaces vides dans la ville et de les mettre à disposition de ces gens-là pour un faible loyer. Alors, juste pour terminer sur les activités qui ont lieu sur le site des Grands Voisins pendant la saison 1 et qui continuent maintenant pendant la saison 2, c'est un bar qui est très apprécié dans le quartier, qui s'appelle La Lingerie, et donc qui propose un grand nombre d'activités le week-end, en soirée, avec des concerts, des temps d'activités manuelles, des temps de dialogue aussi, de conférences. La saison 1 c'est terminé, donc c'est-à-dire que y a la plupart des bâtiments occupés au début du projet des Grands Voisins sont fermés maintenant et il y a les travaux du futur quartier qui s'appelle le quartier Saint-Vincent-de-Paul donc qui ont commencé
construction de immobilière.
Construction immobilière où il y a du logement, un gymnase, une crèche, un espace culturel, enfin voilà, et qui est porté par Paris et Métropole Aménagement. Et donc en fait, la saison 1 s'est terminée, les travaux ont avancé, mais par contre, le temps de la saison 2, il reste encore peut-être 100 places d'hébergement d'urgence, quelques ateliers, beaucoup moins, mais voilà, une dizaine d'ateliers, et toujours ce bar La Lingerie, un restaurant qui a ouvert qui s'appelle l'Oratoire, restaurant gastronomique mais à faible, enfin dont les prix sont assez bas, enfin voilà, puisque une partie des gens qui travaillent en cuisine sont en cours d'insertion et réinsertion.
Là, on est face à un panneau sur lequel est écrit avec une flèche verticale urinoir masculin, accès par la terrasse du fond, et puis vers la droite, on peut aller rejoindre les urinoirs féminins.
Donc en fait, moi, en tant que designer, dans le cadre de mon projet de diplôme, j'ai choisi de travailler sur la question de la valorisation agricole de l'urine. Ce sujet, enfin, touche à des questions de design parce que à toutes les échelles, il y a la question première, c'est dans quoi on va faire pipi si on collecte l'urine, quand on est un homme, quand on est une femme, quand on est chez soi ou quand on est dehors, dans un espace public. Ensuite, il y a la question de comment la ville s'organise, des questions plus urbaines, des questions aussi de lien entre différents territoires, un territoire urbain et les campagnes autour, etc. Donc,
oui, parce qu'il faut après transporter l'urine et puis la valoriser essentiellement. Donc c'est pour l'agriculture, la culture.
Tout à fait, c'est pour l'agriculture. Donc il y a aussi la question du lien qu'on crée avec les agriculteurs qui vont utiliser cette urine dans un second temps. Et donc le designer, il a une place dans tous ces segments qui vont faire que la filière va marcher et que tous les maillons vont être assemblés. Donc j'ai choisi en tant que designer de travailler sur ce sujet pour mon diplôme qui est un temps vraiment de carte blanche où je choisis ce que je produis sans contrainte. Mon désir sur la question de la valorisation agricole de l'urine était de faire un dispositif de sensibilisation et de médiation. Il faut savoir que le fait de collecter l'urine implique forcément des changements d'usage assez importants pour les utilisateurs. Et donc,
Oui, parce qu'il faut bien préciser qu'on ne collecte pas les déchets solides.
Oui, ce qui est important dans la valorisation de l'urine, c'est ce qu'on appelle la séparation à la source. Donc, c'est-à-dire, l'urine doit être d'emblée séparée des matières fécales, du papier toilette et de la chasse d'eau.
Et pourquoi les matières fécales elles-mêmes ne peuvent pas être valorisées ?
Alors, les matières fécales peuvent être valorisées, simplement le processus de valorisation va être différent. Les matières fécales sont porteurs de pathogènes, donc pour des raisons sanitaires, on va être très vigilant sur le processus de compostage. L'urine, à l'inverse, n'est pas porteur de pathogènes, elle est considérée comme salubre, et donc et en un simple stockage de 1 à 3 mois, on peut, s'il y a eu contamination par contact avec des matières fécales, il y a une modification du pH naturel qui se fait dans la cuve de stockage, qui fait que il y a une auto-hygiénisation de l'urine et elle est prête à l'usage.
C'est presque stérile ou auto-stérile.
Oui, tout à fait.
Alors, on a monté quelques marches en bois là depuis la cour et on est donc à quelques mètres du sol dans un abri qui est une structure en bois.
Oui, alors en fait, on est sur une mezzanine. Cette structure en bois, c'est en fait un plancher qui est à 1,50 m du sol, qui est ensuite un petit toit. Et en fait, on est en hauteur, on a monté des petites marches pour venir, parce que sous nos pieds, il y a des cuves de stockage de l'urine. Et donc, on fait pipi et l'urine, par gravité, arrive dans les cuves. Donc, on a 5000 litres de stockage. Voilà. Ensuite, on arrive dans l'espace des urinoirs féminins. Où on est, en fait... j'espère que c'est propre. Où on est simplement caché par des petites parois, des paravents, mais par contre il n'y a pas de porte, c'est-à-dire qu'on n'est pas enfermé à clé dans une boîte, on est simplement caché par des paravents.
C'est un petit peu comme les urinoirs masculins, il n'y a pas de fermeture, on n'a pas besoin de se mettre dans une boîte.
Alors voilà, l'idée, ça c'est plus pour des questions de d'augmenter les flux d'utilisation, c'est-à-dire qu'il y a un peu moins de files d'attente, etc.
Oui, c'est vrai qu'on a tous remarqué, dans les lieux publics, il y a toujours une queue très importante du côté des toilettes des filles.
Voilà.
Donc un des objectifs, c'est aussi de réduire ce problème.
Exactement, c'est un des objectifs, en plus de la séparation à la source, avec les urinoirs. L'autre objectif, qui est dans une prospective pour les femmes, pour améliorer la qualité d'accueil aux toilettes, c'est vraiment de essayer de réduire les files d'attente. Je propose d'installer les urinoirs féminins sans mettre de porte, mais quand même, on se dénude davantage quand on est une femme et qu'on fait pipi. Donc, il faut quand même proposer une structure qui conserve un petit peu la pudeur. Et donc, c'est pour ça qu'il y a quand même ces grands murs qui nous cachent entièrement.
Alors là, on est, c'est l'hiver, il fait froid et c'est pas un local fermé. Donc, on est au frais, un peu comme dans à l'époque des Vespasiennes pour les hommes.
Oui, alors ça c'est vraiment les contraintes du bâtiment qui ont imposé ça. Dans le bâtiment il n'y avait pas d'espace adapté pour installer les urinoirs féminins, donc on a décidé de les mettre dehors, comme d'ailleurs les urinoirs masculins sont aussi dehors de l'autre côté. Voilà, ça c'est vraiment parce que l'espace disponible pour installer ce dispositif dans un lieu qui est déjà bien étriqué, c'était dehors.
Une des caractéristiques, les deux grandes caractéristiques innovantes, je dirais, de ces urinoirs, c'est d'abord qu'elles sont destinées aux femmes, et la deuxième caractéristique, c'est qu'elles sont sèches, elles n'utilisent pas d'eau.
Oui, alors comme je disais, puisque c'est des urinoirs qui sont dédiés à la collecte de l'urine, ce sont des urinoirs secs, donc c'est-à-dire sans chasse d'eau. Il en existe déjà pour les hommes qui sont vendus dans une ambition d'économiser de l'eau, mais en fait, ça nous permet aussi de collecter l'urine sans avoir le volume de l'eau en plus. Donc c'est pour ça que je n'ai pas mis de chasse d'eau sur mes urinoirs. Et alors, comme il n'y a pas de chasse d'eau, on ne peut pas mettre le papier toilette dans l'urinoir, à l'inverse de quand on est une femme et qu'on va faire pipi, on est habitué à mettre le papier toilette dans la toilette. Et donc pour essayer de rappeler c'est un geste qui est vraiment très automatique chez les femmes, et donc c'était vraiment une problématique de comment faire pour rappeler la consigne du papier toilette, mettez le papier toilette dans la poubelle. Voilà, on peut mettre toutes les signalétiques qu'on veut, les femmes elles risquent de
faire
ce geste.
Oui, il y a toujours un risque. Oui,
vraiment,
alors comment vous vous y êtes pris?
Moi-même, ça m'est arrivé de mettre le papier toilette alors que je suis la conceptrice du truc, quoi. Donc,
comment vous vous y êtes prise?
Et donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir fermé visuellement l'objet. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'air d'être une grande vasque qui peut tout recueillir comme un toilette, mais c'est plutôt un objet relativement fermé dans lequel on voit simplement des petits trous. Et donc ça rappelle implicitement le fait que c'est un objet qui ne peut recevoir que des liquides et que de l'urine. Donc ne pas y mettre le papier toilette, ne pas déféquer, etc. Donc ça c'est un effet, on appelle ça un effet nudge, qui est un lien implicite que le cerveau va faire. Pareil, il y a un lien de couleur. J'ai aussi dessiné la poubelle qui va avec l'urinoir et qui permet de participer à cet effet inconscient de « ok, le papier toilette, c'est vraiment là que je dois le mettre », etc.
Oui, ça, c'est un enjeu important. Et puis alors, dernière question avant qu'on sorte, c'est la question de l'hygiène, puisque du coup, la plaque qui comporte les petits trous à travers lesquels l'urine s'évacue n'est pas nettoyée à chaque passage.
C'est pas nettoyé à chaque passage, mais il n'y a pas de problème d'odeur. C'est, en fait, il faut juste qu'il y ait un ménage quotidien dans l'espace toilette, mais comme dans tous les toilettes publiques. Sous l'urinoir, il y a ce qu'on appelle un siphon sec qui permet de ne pas avoir de remontée d'odeur, puisque d'habitude, cette non remontée d'odeur est assurée par le siphon associé à la chasse d'eau. Là, il n'y a pas de chasse d'eau, donc il y a un siphon sec qui est un système de deux membranes accolées qui empêche les odeurs de remonter. Le fait qu'il y ait des gouttes d'urine qui vont rester dans l'urinoir ne pose pas de souci d'odeur. En tout cas, là, c'est absolument pas un problème dans cet espace.
Deuxième séquence de notre déambulation au Grand Voisin, ce lieu temporaire dédié à l'hébergement d'urgence, à l'insertion sociale et économique, à la création à Paris. Dans le cadre des multiples expérimentations qui sont menées au Grand Voisin, l'une de nos invitées, Louise Raguet, avait donc installé, c'était en janvier dernier, des urinoirs secs dédiés aux femmes qui permettent de collecter l'urine pour la valoriser dans l'agriculture. Les filles ne sont pas habituées aux urinoirs, les personnels d'entretien ne sont pas habitués aux urinoirs secs, la société n'est pas habituée à valoriser l'urine. C'est là qu'intervient Marine Legrand. Elle est anthropologue et travaille avec Louise Raguet. Et toutes les deux, elles accompagnent non pas une innovation inattendue, mais bien une mutation de la société de l'urinoir sec à l'agriculture en circuit court qui valorise encore mieux nos déchets et les nutriments qu'ils contiennent.
Chaque week-end sur RKS, rendez-vous avec le miroir des sciences.
Alors Marine Legrand, donc ce qui est surprenant effectivement, c'est que il y ait pas d'odeur dans ces urinoirs, mais vous nous expliquez que dans les urinoirs traditionnels, donc les urinoirs pour hommes, parfois il y a des odeurs parce que on nettoie pas bien ou on nettoie pas du tout.
Voilà, alors au-delà de la question du déficit de nettoyage et de la fréquence des passages des équipes de ménage, la façon dont on va aller nettoyer les urinoirs va faire qu'ils vont sentir mauvais ou pas. Les produits détergents qui sont habituellement utilisés pour nettoyer les toilettes, en fait, ne sont pas particulièrement performants pour nettoyer les odeurs qui émanent des traces d'urine, parce qu'en fait, ça vient d'éléments minéraux qui vont se cristalliser et qui vont émettre ces odeurs-là. Et pour enlever ces éléments minéraux-là, ce qu'on appelle le tartre d'urine ou la struvite, ça s'appelle, eh bien, il faut utiliser des éléments acides, genre par exemple du vinaigre concentré. Or, les équipes de ménage aujourd'hui, hein, elles n'utilisent pas ce genre de produits-là. Donc, ça veut dire que si les urinoirs secs viennent à se généraliser, masculin, féminin, eh bien, ça demande une formation des entreprises de ménage, etc. Donc c'est une transformation de pratiques professionnelles.
Voilà pourquoi vous entrez en scène en tant qu'anthropologue et qu'il n'y a pas qu'une dimension technique ou de design sur ces enjeux, sur les urinoirs.
Ouais, j'ajouterais même que si l'urine est collectée, il faut impérativement ne pas mettre de biocides dans les toilettes, donc ne pas mettre de produits de Javel, etc. Ça c'est aussi pour le bon déroulé des processus de valorisation ensuite. Et sur cette question du ménage, l'urinoir féminin en est aussi un très bon exemple de l'enjeu de former les équipes de ménage, puisque le couvercle dont je vous parlais tout à l'heure a en fait une fonction amovible avec une poignée, ça c'est dédié aux équipes de ménage pour qu'ils puissent nettoyer sans devoir, s'il y a des incidents au fond de l'urinoir, pour nettoyer sans devoir aller y mettre les mains. Donc il y a un système de pelle, etc. Et donc tout ça, ça implique que les équipes de ménage soient impliquées dans l'installation des urinoirs masculins et féminins de collecte de l'urine. Donc finalement, ces gens-là font partie de la filière et de la chaîne de valorisation qui est mise en place.
Alors prenons l'exemple peut-être le retour d'expérience que vous avez pu avoir ici au Grand Voisin. Vous avez donc installé ces urinoirs il y a combien de temps, puisqu'on est en janvier 2020 là?
Alors les urinoirs sont installés depuis 5 mois au Grand Voisin et effectivement il y a eu un temps d'adaptation pendant la première semaine où je suis venue rencontrer les équipes de ménage et les former l'usage de ce couvercle, la question des produits. Alors les Grands Voisins utilisaient, les équipes du Grand Voisin utilisaient déjà les bons produits de ménage, ils utilisaient déjà du vinaigre blanc pour nettoyer, mais donc j'ai réaffirmé qu'il fallait effectivement faire comme ça, mais par exemple l'absence de chasse d'eau a beaucoup perturbé les équipes, puisque ils étaient habitués à laver à grande eau et donc ils avaient l'envie de verser des grands seaux d'eau, etc. Donc j'ai expliqué que ce n'était pas possible de faire ça puisqu'en dessous il y avait les cuves et qu'on pouvait pas remplir les cuves d'eau. Il fallait pas diluer l'urine. J'ai expliqué qu'il fallait simplement asperger de vinaigre blanc et puis essuyer avec un chiffon. Mais en fait tout est rentré dans l'ordre. La semaine suivante, les gestes étaient bien appris et les équipes de ménage que j'ai re-rencontrées régulièrement pour voir si ça se passait bien m'ont même témoigné qu'elles préféraient venir nettoyer aux urinoirs féminins qu'aux urinoirs masculins parce qu'il y a une logistique qui avait été mise en place aux urinoirs féminins.
Du côté des usagers, est-ce que vous avez pu regarder comment ils se comportaient? Est-ce qu'ils contournent des usagères, on dirait? Est-ce qu'elles contournent ce dispositif en préférant des toilettes classiques ou est-ce que les gens y vont?
Alors, ce que j'observe, c'est qu'il y a un peu les early adopters qui osent y aller. Il y a vraiment des femmes qui vont tout de suite en disant « Ah, super, super, qu'on a très envie de tester, etc. » Et donc, qui vont spontanément aux urinoirs féminins et puis qui reviennent en disant « Ah, c'est super !» Et donc, ça permet aussi qu'il y ait une conversion. Donc, parfois, elles vont même jusqu'à aller chercher d'autres femmes qui sont dans la file d'attente aux toilettes classiques en face en leur disant « Mais mesdames, allez aux urinoirs féminins, il n'y a pas d'attente. » c'est super pratique. Et alors, il y a vraiment des femmes qui ont peur de ne pas savoir comment faire, qui disent ah non, ou alors elles disent j'ai pas amené mon pisse debout parce qu'elles pensent qu'il faut un pisse debout qui est une sorte de prothèse qui permet d'uriner debout. Elles disent non, c'est pas ça, vas-y, tu vas voir, tout est expliqué, c'est très simple. Donc, il y a vraiment ce dialogue qui se fait.
Donc, il y a un facteur d'entraînement.
Ouais, tout à fait. Des femmes satisfaites vers.
C'est une chose que de. Collecter le pipi dans ce dispositif, c'est une autre de savoir ce qu'on en fait derrière. Donc on est face à un panneau là qui porte le titre faire pipi dans les champs. Vous pouvez nous le commenter un petit peu?
Oui, alors en fait, un des objectifs d'installer ces urinoirs féminins et cette collecte de l'urine sur le site des Grands Voisins, c'était vraiment de faire de la sensibilisation. C'est-à-dire que c'est un projet qui est symbolique avant tout et qui permet de faire parler du sujet et de dire, regardez, on peut faire autre chose que mettre l'urine dans l'égout et c'est vertueux. Et donc, j'ai travaillé avec un illustrateur avec qui on a conçu une sorte de grande fresque qui raconte les enjeux de boucle de la matière depuis le champ qui part
depuis l'urinoir, voilà. Qui part de l'urinoir.
Alors ça dépend, on rentre dans la boucle comme on veut, mais en quelque sorte l'idée c'est vraiment que les légumes poussent grâce à des nutriments qui sont dans le sol et que en fait ces nutriments on les fait rentrer, on les exporte du sol puisqu'on amène les légumes au champ, à la ville. Et donc une fois qu'ils se retrouvent dans nos assiettes, on les ingère, donc les nutriments passent par nos corps et ressortent principalement dans l'urine. Et donc en fait, si on veut pouvoir l'année suivante faire à nouveau pousser des légumes dans ce même champ, ben en quelque sorte, il faut remettre les nutriments dans le sol pour à nouveau nourrir la plante. Et donc c'est ça la boucle des nutriments dont
on parle.
Donc
on est dans une forme de d'économie circulaire, on peut le dire comme ça.
En tout cas de circularité.
Et évidemment, je suppose que vous travaillez sur des circuits courts quand on voit. Donc première étape, moi je repars de là, s'il faut les numéroter, aller faire pipi aux urinoirs secs et puis livrer le pipi à la ferme. Donc ce sont des fermes qui sont à proximité de Paris.
Alors quand j'ai conçu cette fresque, c'est un peu un scénario idéal. L'idée c'était vraiment l'idée qui me plaisait, c'était d'imaginer que les puisqu'en fait il y a un restaurant sur le site des Grands Voisins, c'était d'imaginer que les maraîchers qui viennent livrer les légumes repartent avec les cuves d'urine. Donc là on aurait un peu la boucle parfaite où ils nous apportent des nutriments sous forme de légumes et on leur rend des nutriments sous forme d'urine. Dans les faits, ça a été évidemment plus compliqué que ça. Donc ce qui a été mis en place sur le site des Grands Voisins, c'est que l'urine est gérée par une entreprise de toilettes sèches qui s'appelle Toilette & Co. Et donc qui vient donc eux ils sont habitués à gérer des volumes d'urine et matières fécales très conséquents puisqu'ils font les toilettes de festivals et de grands événements.
Ils ont des capacités de traitement.
ils ont des capacités de traitement, ils ont des capacités de logistique, de transport, de stockage. C'est vraiment le cœur de leur métier de gérer cette valorisation. Ils ont aussi leur réseau d'agriculteurs auprès de qui ils apportent la matière. Ils connaissent des plateformes de compostage. Enfin voilà, ils ont vraiment tout l'écosystème nécessaire qui peut être assez complexe à trouver et à mettre en place. Donc c'est l'entreprise Toet&Co qui fait ça. Et donc aujourd'hui, ils récupèrent les cuves d'urine et ils les stockent sur leur plateforme de compostage à proximité de Fontainebleau, et ensuite ils redistribuent à leur réseau d'agriculteurs.
Bon, les amis, je vous propose qu'on rentre un peu au chaud pour la suite de notre conversation. Donc, Louise Raguet, vous me disiez qu'il y a une raison très particulière qui a fait que ce projet a pu être déployé ici au Grand Voisin, parce qu'il y a des perspectives.
Oui, alors en fait, l'installation de cette collecte d'urine a été financée par Paris et Métropole Aménagement, qui est en charge de l'aménagement du futur quartier, futur éco-quartier Saint-Vincent-de-Paul. Et en fait, ils ont l'intention d'expérimenter, de mettre en place la collecte de l'urine sur tout le quartier ou une partie du quartier. Donc c'est pour les 250 logements, le gymnase, la crèche, etc. Donc ils sont en train d'étudier la question et donc de voir qu'est-ce qui peut se faire, mais ils ont l'intention d'expérimenter à cette échelle, et donc ce sera une première en Europe. Donc ce projet qui est installé au Grand Voisin fait office de préfiguration et de sensibilisation pour commencer à dire regardez ce qui est possible de faire.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de temporalité, parce que vous me disiez tout à l'heure qu'il y a une partie du site qui est déjà en cours de reconstruction, donc sur cette partie-là, c'est pas encore intégré. Vous êtes sur un démonstrateur, et eux, ils sont déjà en train de construire les nouveaux bâtiments. Comment ça s'articule ?
Alors en fait, il y a beaucoup de bâtiments, beaucoup de sites, et je pense que les bâtiments concernés par la collecte de l'urine sont encore en train d'être dessinés par les architectes actuellement. Les concours ont été nommés, enfin les lauréats des concours ont été nommés, mais les détails de construction des bâtiments sont encore en cours. Donc les travaux qui ont commencé concernent d'autres parties.
Parce que c'est vrai qu'il y a quand même plusieurs temps. Il y a le temps des démonstrateurs, le temps des pilotes, le temps des créateurs qui s'assemblent à deux, trois et qui arrivent à faire émerger une très bonne idée et à la mettre en œuvre. Et puis après, il y a le temps de la mise en œuvre intensive, le temps public, le temps qu'on attribue souvent comme trop long aux politiques.
Je dirais que c'est au-delà du politique... C'est le temps du projet urbain et sa structuration. Donc on est dans un contexte où les projets urbains sont confiés à des consortiums qui assemblent un certain nombre de structures publiques, privées, sont dans une recherche de rentabilité assez importante et en même temps dans une forme d'inertie du fait de la complexité de ces structures-là. Donc à la fois, on est dans un contexte ici où la mairie de Paris a pu poser un cahier des charges assez élevé et imposer finalement sa vision vis-à-vis de son envie de mettre en place cette innovation. Mais on est dans un contexte où les projets urbains n'offrent pas un contexte très facilitant pour la mise en œuvre d'innovations environnementale, du fait donc de l'énorme machinerie qu'elles mettent en route, du fait des risques financiers que les acteurs prennent et du fait
et puis
de
peut-être des risques technologiques aussi que eux perçoivent, parce que je pense que quand on doit construire du logement dans un délai resserré, on préfère ne pas prendre de risques, par exemple sur les toilettes.
Oui, c'est un double risque en fait, un risque technique, puisqu'on est encore au niveau de la construction des filières pilotes, donc du rassemblement des retours d'expérience des premières mises en œuvre de ces techniques-là. Bon, alors en Europe, on commence vraiment à avoir du recul. Nous, on a sorti donc le programme Okapi, une note sur la conception et l'entretien des réseaux de collecte d'urine. Donc maintenant, au niveau technique, là, on est quand même assez sécure, on va dire, assez rassuré sur la faisabilité de ces choses-là. Par contre, il y a un deuxième risque qui s'ajoute à ça en termes de perception par ces opérateurs-là, qui est plutôt de leur propre perception de cette question. Et donc, c'est finalement auprès de ces acteurs-là, en premier, qu'il est nécessaire de faire de la sensibilisation Par rapport à cette idée qu'on pourrait changer de façon d'aller aux toilettes, que la cuvette blanche avec une chasse d'eau qui fait disparaître nos excréments sans qu'on ait même à penser qu'ils existent, bah ça peut changer et que culturellement c'est quelque chose qui est en fait déjà en train d'évoluer. Donc finalement c'est eux qu'on sensibilise en premier. Donc alors par exemple ce qu'on fait dans ce cadre-là, c'est d'éviter de dire des mots qui renvoient vraiment au corps humain. Donc on va pas dire urine, hein, ou matière fécale, on va dire nutriments par exemple, ou matière organique. Donc cette manière de créer des euphémismes, ça les soulage. C'est-à-dire que c'est compliqué quand on est dans une réunion autour d'une belle table en verre avec la façon de se comporter dans ces contextes-là qu'on a, et les normes de langage, etc., de dire des mots comme ça, quoi. Et donc on a besoin de trouver un langage qui corresponde à ce contexte aussi, simplement pour qu'ils puissent en parler.
Oui, j'ai remarqué sur le site de Okapi qu'il y avait tout un wording qui visait à entraîner les gens dans un esprit positif vis-à-vis de ce genre de projet. Par exemple, on relève qu'on dit vous faites une remarque sur le fait que c'est très bien de vouloir valoriser son urine, mais il faut pas le faire n'importe quand ou n'importe comment à mauvais escient. Par exemple, vous dites dans un milieu aquatique, l'excès de nutriments est très vite atteint. On appelle cela l'eutrophisation. Donc là, vous vous adressez à ceux qui auraient envie de prendre l'initiative en faisant pipi dans une rivière quand ils se baignent en été, voire dans la piscine. Mais enfin, là, on est dans des conditions très particulières. On peut conduire donc, dans ce cas, à des proliférations d'algues, de cyanobactéries productrices de toxines et à la mort des poissons. Et ce serait dommage, dites-vous, de fermer les baignades pour cette raison.
Alors effectivement, la grande problématique environnementale à laquelle on répond avec cette ambition de collecter l'urine des citadins pour la retourner au champ, c'est surtout d'éviter de la mettre dans les rivières. Donc aujourd'hui, on a un système d'assainissement, si on prend le cas de la région parisienne, qui est très centralisé, donc avec des chasses d'eau qui vont chasser nos excréments dans des égouts, qui les amènent vers des stations d'épuration, notamment la station d'épuration d'Achères, qui est une des plus grandes du monde. Et dans ces stations d'épuration-là, bon, il y a une hygiénisation, une destruction d'une partie donc des éléments nocifs pour les cours d'eau qui se trouvent dans les eaux usées. Mais pour le cas donc des nutriments dont on a parlé déjà, l'azote, le phosphore, qu'on retrouve majoritairement, très majoritairement pour l'azote dans les urines, et bien ces nutriments-là, ils sont traités seulement en partie par les stations d'épuration, et que depuis quelques décennies, en fait, c'est pas si ancien que ça. Or, donc cet azote et ce phosphore, quand ils se retrouvent dans les rivières, c'est des facteurs de croissance, comme pour les plantes dans les champs, mais dans les rivières. Donc dans les rivières, ça fait pousser des algues, et donc ces algues amènent à l'étouffement des cours d'eau. C'est ça l'eutrophisation, en fait, c'est-à-dire qu'on nourrit trop les rivières.
Est-ce que c'est le même phénomène qui se manifeste de façon extrêmement importante et spectaculaire avec les fameuses algues vertes en Bretagne?
Alors c'est exactement le même phénomène. Donc ce qu'on retrouve dans les rivières, donc une fois que ça passe par la rivière, les rivières se jettent dans les fleuves qui se jettent dans les mers, et donc les phénomènes de marée verte sont liés à la fois donc aux excrétions urbaines de nutriments ou à l'insuffisance du traitement des eaux usées, on peut le dire comme ça, et aux émissions d'origine agricole. Donc c'est ces deux phénomènes combinés qui produisent...
L'apport d'azote dans les traitements agricoles.
L'apport d'azote et de phosphore d'origine agricole, oui. Alors pour prendre un chiffre, il y a plusieurs millions de Parisiens en fait qui font pipi dans la Seine chaque jour, si on le fait en comptabilité azotée. Donc c'est assez marquant de se dire, en fait, puisque les stations d'épuration ne traitent que deux tiers de l'azote. Et donc il y en a quand même un tiers, donc il y a quand même un tiers des Parisiens qui, en quelque sorte, pissent dans la Seine. Même si, en fait, ils font ça aux toilettes, hein, mais au final, ça termine dans la rivière quand même.
Alors, ces questions de gestion de l'urine, voire des excréments solides aussi, elles ont été débattues il y a plus d'un siècle. Et finalement, le projet Okapi vise à ramener ce débat sur la table.
Tout à fait. Alors, si on prend le cas de la France, sans remonter trop loin dans l'histoire, parce que ça nous prendrait beaucoup plus de temps, au 19e siècle, il y a eu un moment d'intérêt vraiment très fort pour les urines et matières fécales humaines, les matières de vidange et leur utilisation comme engrais et comme fertilisant pour la production agricole.
Donc, dans quel contexte? Pourquoi c'était intéressant?
Alors on est un contexte quand même d'augmentation de la production, un début d'intensification au 19e siècle et puis des développements techniques assez diversifiés. Et donc cette focalisation sur les engrais humains, en fait, elle se place dans un contexte geste plus large d'une recherche un peu effrénée de toutes les ressources qu'on pourrait aller remettre dans les champs pour favoriser la production. Donc les eaux des abattoirs, le salpêtre dans les caves, le guano qui est collecté massivement au niveau, par exemple... des îles au large du Chili, il y avait de l'importation massive de guano d'oiseaux coloniaux à cette époque-là. Donc finalement, les engrais humains, ils venaient à l'intérieur d'un cadre plus large de recherche massive d'engrais. Et donc, ce débat était en quelque sorte clos par deux choses. D'une part, le fait qu'on a trouvé des ressources, une façon de produire des engrais azotés à l'aide d'une synthèse chimique, donc qui va combiner l'azote inerte de l'atmosphère et du gaz naturel. Ça s'appelle la réaction Haber-Bosch, début du XXe siècle. On va trouver des ressources minières pour le phosphore, donc des mines de phosphore, notamment au Maroc. Et troisièmement, à ce moment-là, il y a des débats très forts autour de la question de l'hygiène en contexte urbain et de la problématique de, bah, des pathogènes qui sont présents dans nos matières fécales et donc qui contaminent l'eau, etc. Et donc ces deux choses-là finalement viennent se rencontrer. C'est-à-dire qu'on peut arrêter de s'intéresser aux engrais humains du fait qu'on a aussi d'autres ressources à proposer à la place. Si on prend le cas de l'agglomération parisienne, en fait on a d'abord un égout qui était fait pour évacuer les eaux pluviales avec des matières qui étaient collectées dans des fosses de vidange. Ces fosses-là étaient récoltées par des vidangeurs. Et donc, il y avait tout un commerce de l'engrais humain qui s'est mis en place. Le tout à l'égout n'a été validé, en quelque sorte, que parce que à ce moment-là, il y a des plaines d'épandage qui ont été mises en place. Donc, il y a eu quand même une tentative de continuer à engraisser les champs, mais directement avec les eaux d'égout. Ce qui vient clore ce débat, c'est ce que je disais sur la découverte de ces autres engrais et puis l'agrandissement de la métropole finalement qui avait plus d'eau usée à épandre que de champs sur lesquels les épandre.
Alors on peut peut-être prendre le témoignage d'Isabelle Chen, notre chroniqueuse, qui elle a observé un certain nombre de choses en Chine quand elle était petite.
Oui, alors même jusqu'à maintenant, la Chine c'est encore un pays en développement et je pense que c'est le cas pour d'autres pays qui sont dans la même situation. Mais dans les zones rurales, en fait, on a encore des toilettes sèches en fait, et où les gens se posent pas sur les toilettes comme le dispositif qui est imaginé et qui est proposé ici. Et j'ai trouvé ça assez intéressant dans le sens où on revient à des techniques un peu plus anciennes en quelque sorte et dites moins technologiques, mais finalement on a encore une revalorisation de ressources auxquelles on a accès directement plutôt que d'aller chercher de ce qu'elle disait tout à l'heure, c'était qu'on devait rajouter des engrais dans les champs alors que finalement on dispose de ressources naturelles dont on a usé pendant des millénaires en fait.
Alors là, on est dans le domaine des low-tech ou des slow-tech, non ? C'est ça le qualificatif qu'on utilise ?
Alors, dans l'univers de la valorisation agricole des fertilisants d'origine humaine, pour employer toujours des mots accessibles à toutes les oreilles, en fait, il y a tout un tas d'options qui se développent aujourd'hui. Les options les plus low-tech, effectivement, sont l'urine utilisée comme engrais après simple stockage et le compostage des matières fécales. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui est assez simple, assez peu coûteux énergétiquement. Et après, il y a des procédés beaucoup plus complexes et beaucoup plus high-tech. Par exemple, en Suisse, il y a un procédé de traitement des urines qui combine une nitrification avec un réacteur bactérien donc qui va permettre de transformer l'ammoniac de l'urine en nitrate pour le stabiliser. Ensuite, un traitement au charbon actif pour enlever tous les micropolluants qu'on peut retrouver dans les urines, donc les traces de médicaments, les choses comme ça. Et troisièmement, une distillation pour concentrer par 20 le volume, ce qui nous donne donc quand même un procédé qui est assez technique, assez complexe, subtil et relativement énergivore, alors beaucoup moins que la production synthétique d'engrais aujourd'hui. Et derrière, on obtient un engrais donc, qui s'appelle Aurin, A-U-R-I-N, et qui est commercialisé aujourd'hui dans les jardineries en Suisse, qui est labellisé, on peut l'utiliser pour faire pousser ses tomates cerises sur son balcon, par exemple.
En termes de coût économique, en fait, ça donne quoi ? Parce que, enfin, je pense que c'est à quoi s'intéresseront les investisseurs potentiels de ce genre de projet écologique, enfin, c'est-à-dire quel est le coût, en fait, de ce genre de transformation, en fait, après coup ?
Est-ce que vous avez déjà des indicateurs ?
Alors on peut intégrer cette question du coup dans une réflexion plus générale sur le cycle de vie. Alors on parlait du cycle de la matière, donc on parle d'analyse de cycle de vie où on va combiner des questions économiques, des questions environnementales et des questions aussi d'organisation. Alors au-delà du coût total, de la question de ce que ça coûte en plus, il y a la question de qui paye quoi. Alors, on peut dire deux choses à ce stade. Le fait est que la production industrielle d'engrais, elle est très peu chère, hein, parce qu'ils sont à des échelles de production. Du coup, ils font des économies d'échelle importantes, mais aussi parce que l'énergie, donc le gaz naturel en l'occurrence, a un prix qui est complètement sous-évalué par rapport à son impact environnemental. Là, on parle des effets de serre. Si on rémunérait, entre guillemets, enfin, si on faisait payer vraiment ça, bon, bah, ça coûterait beaucoup plus cher de produire ces engrais-là. Réciproquement, si on utilise de l'urine simplement stockée, et ben là le coût il est très faible. Par contre, il y a la question de l'échelle à laquelle on peut déployer ce genre de processus qui va poser question. Autre chose, aujourd'hui, les stations d'épuration, elles sont financées par subsides qui sont récoltés par le fait que les gens ils tirent la chasse chez eux, ils utilisent de l'eau. Donc, l'eau paye l'eau. Si on arrête de tirer la chasse, qu'est-ce qui va financer le système d'assainissement de demain ? Donc c'est une réflexion collective à avoir qui est politique en fait.
Chaque week-end sur RKS, rendez-vous avec le miroir des sciences.
RKS, le miroir des sciences, est donc la fin de cette longue séquence consacrée à Okapi et à cette question du recyclage. Changer notre façon d'aller aux toilettes, c'est une des ambitions du projet donc Okapi qui explore les solutions techniques et sociétales pour collecter et valoriser les excréments à des fins d'économie frugale. Et par exemple, Simon, vous m'écoutez, j'espère.
Ah, mais bien sûr.
Par exemple, dans le cadre de ce projet, avec du blé fertilisé grâce à de l'urine collectée à Paris, un pain dit boucle d'or a pu être confectionné dans le cadre d'un projet copiloté avec l'INRA.
Bon appétit, bien sûr.
Voilà. Marine Legrand m'écrivait il y a deux jours dans la foulée de l'expérience Petit Pipi au Grand Voisin, donc sur laquelle on avait enregistré ce reportage en janvier dernier, que la mairie de Paris a validé la mise en œuvre de la séparation à la source de l'urine sur l'ensemble de l'éco-quartier qui est en devenir dans le 14e arrondissement de Paris. Donc, on passe donc de deux urinoirs féminins à un quartier entier avec ses logements, ses commerces, ses immeubles de bureaux, ses toilettes publiques. L'urine sera traitée à l'échelle du quartier, valorisée comme engrais, notamment dans les espaces verts de la capitale. C'est donc un véritable changement de société qu'esquisse au micro du miroir des sciences Louise Raguet et Marine Legrand. Merci à toutes les deux. Le projet Okapi est simple à retrouver sur Internet en tapant simplement O-C-A-P-I suivi de pipi pour être sûr de tomber sur le bon projet. Quant à la pissotière sèche sec de, pour les filles de Louise Raguet, non, on dit un urinoir et une pissotière. Donc je reprends. Quant à la pissotière sèche pour les filles de Louise Raguet, vous la retrouverez en tapant pipi-Marcel. Marcel avec deux L, bien sûr. Allez, on recommence avec la pub. Simon Chupin est avec nous et c'est le moment de votre chronique. Vous nous parlez de quoi aujourd'hui ?
Bonjour François. Alors aujourd'hui, je vais vous parler une fois de plus du jeu vidéo. Mais vu sous l'angle.
C'est votre passion.
Eh oui, moi, les petits pixels, les petits Mickey qui courent sur des écrans, c'est ma passion.
Les Mario.
Voilà, les Mario, les Tetris. Et donc aujourd'hui, je vais essayer d'apporter une définition d'un concept qui est au cœur de la création du jeu vidéo, qui est le gameplay. Qui est un peu le truc technico-technique qu'il faut bien comprendre et qui, aujourd'hui, les chercheurs en Game Studies, en recherche en jeux vidéo, justement, essaient d'apporter des définitions et je vais apporter ma pierre à l'édifice, modeste. Tout d'abord, on va revenir sur ce qu'est le jeu vidéo, qui est aussi un grand débat qui anime, évidemment, les chercheurs qui étudient cet objet. Et je vais reprendre la définition que donne Mark G. P. Wolf, un professeur de communication à l'Université du Wisconsin, dans son ouvrage The Medium of the Video Game, qui est sorti en 2001. Donc je cite, « Techniquement, un jeu vidéo doit comporter la transmission d'un signal vidéo vers un tube cathodique affichant des images rasterisées sur un écran. Mm-hmm. » Rasterisé, je ne suis pas sûr que ça parle à tout le monde.
Non.
C'est transformer des données numériques en points destinés à l'affichage. Donc en gros, c'est comme quand vous avez un CD, l'image qui est vue sur votre écran quand vous regardez un film, mm-hmm. il est rasterisé et on voit l'image.
D'accord.
Voilà, c'est le concept technique. Donc, selon vous, François, quand le premier jeu vidéo a-t-il été conçu ?
Je ne sais pas si je fais appel à mes propres souvenirs. Dans les années 80, on jouait au tennis
oh là là,
sur la télé.
bien avant, bien avant. Sachez que le précurseur, si on reprend cette définition, le précurseur, c'est Tennis for Two.
Qui ah, a bah été... voyez, j'avais quand même la thématique.
Évidemment, mais qui a été conçu en 1958 par William Higginbotham, alors qui était un physicien américain, et qui cherchait à proposer une activité lors de l'exposition annuelle de son laboratoire. Le jeu représente un terrain de tennis vu de côté, matérialisé par des lignes vertes et fonctionne sur un oscilloscope. Donc on est quand même, c'est très rudimentaire. Mm-hmm. Chaque joueur avec un bouton dirige sa raquette et doit appuyer au bon moment pour renvoyer la balle. Et il y a un clic qui arrive quand la balle est bien été renvoyée. Donc c'est très rudimentaire, mais on rentre dans la définition aujourd'hui qui est admise du jeu vidéo. Et c'est la première fois qu'on a tous ces éléments qui sont réunis dans un seul. Alors, voilà, certes, les jeux sont complexifiés, mais le gameplay était déjà là. C'est cette règle des jeux.
Alors, expliquez-nous un peu ce que c'est que le gameplay.
Alors, avant d'arriver clairement à définir ce que c'est, oui, il faut que je définisse ce qu'il compose, de manière directe et indirecte. Alors, j'ai quatre points. Le premier, c'est la programmation, qui est la traduction de ce que c'est. Il faut le définir. Bah, je suis totalement raté ma phrase, je recommence. La programmation, c'est la traduction en code informatique des codes narratifs.
Oui, ne vous prenez pas les pieds dans le tapis, vous allez vous donner des définitions, après ça va être pris au pied de la lettre.
Et oui, il faut recommencer. Donc voilà, donc, la programmation, en fait, donc ça c'est le premier point, c'est la traduction en code informatique des concepts narratifs, graphiques et logiques qui sont conçus à l'intérieur du gameplay. Mmh. Ensuite, on a la narration, qui est la manière dont l'histoire est racontée. Elle prendra soit la forme textuelle ou audiovisuelle, ou par l'explication des tâches à accomplir. Quand c'est des tâches à accomplir, c'est ce qu'on appelle la narration par le gameplay. J'y reviendrai. Il y a le game design, qui est au cœur du gameplay. Ça représente l'ensemble des... Big up à la chanteuse. Donc le game design, qui est le cœur du gameplay, ça représente l'ensemble des règles et des logiques qui constituent la cohérence interne du jeu. C'est lorsqu'on travaille le game design que les concepteurs réfléchissent aux objectifs que le joueur va devoir atteindre, aux défis qui vont lui être imposés. Et enfin, il y a le level design. C'est la conceptualisation des différents itinéraires que le joueur doit emprunter. Il faut que le joueur suive un ou des chemins qui ont été réfléchis et que la difficulté du parcours soit cohérente. Il ne faut pas commencer directement par des trucs impossibles et qu'à la fin, ce soit trop facile. Il faut que le joueur ait appris. Et donc avec ces quatre définitions,
progression.
C'est ça. Et ces quatre définitions, on peut former donc ça une définition du gameplay avec ça que je vous propose. Donc le gameplay est l'ensemble des procédés à acquérir partiellement ou totalement pour atteindre les objectifs fixés et programmés par les concepteurs en fonction de règles pouvant être respectées ou contournées. Voilà, là bon, c'est une définition, ça vaut ce que ça vaut, mais du coup ça permet de contenir tout ce qui est les règles du jeu dans un jeu vidéo. Et ce qu'il faut retenir, c'est que cette notion de jouabilité est au cœur même de l'expérience du joueur. Et si l'équilibre n'est pas respecté, vous pouvez avoir l'œuvre la plus jolie graphiquement ou la mieux écrite. Il n'aura pas d'impact sur le joueur et finira au fond de la bibliothèque. Et pour mieux comprendre les mécanismes autour de cette notion de jouabilité, je vous conseille de réécouter ma précédente chronique dans le miroir des sciences sur l'expérience utilisateur.
Donc on mettra le lien sur le blog parce que ça date un petit peu ces contraintes.
Voilà. Et donc, c'est en fonction des choix qui vont être pris que le jeu va proposer une diversité d'expériences.
Alors, vous avez des exemples à nous donner pour mieux comprendre cette diversité d'expériences que vous évoquez ?
Voilà. Alors, pour caricaturer, je vais prendre le spectre, on va dire, du gameplay, et je vais prendre les deux styles diamétralement opposés, les deux concepts. On a des jeux, justement, comme Mario, qui créent l'expérience par la compréhension des procédés de game design et de level design. C'est-à-dire que dans les premiers jeux Mario, il n'y a pas d'histoire. Enfin, sauver princesse, battre méchant. On est vraiment sur du minimum d'histoire.
Ouais. Personnages étaient bien campés quand même. Hein.
Ouais, mais en fait, l'histoire n'a pas d'importance. En soi, pour comprendre l'histoire, pour avancer dans l'histoire, ça va être parce que on va justement comprendre qu'il faut sauter pour pouvoir tuer les adversaires, on va comprendre qu'il faut rentrer dans les tuyaux pour avancer, etc. Donc, en fait, c'est vraiment par le level design, par la manette, qu'on va créer l'histoire. Donc ça, c'est, on va dire, un spectre du gameplay, de la notion de jeu vidéo. Et de l'autre côté, on a les jeux où l'expérience se fait totalement par la narration. Donc, on peut citer la grande majorité des jeux point and click, comme les Monkey Island dans les années 80-90, et plus récemment, des jeux comme Heavy Rain ou Detroit Become Human, qui sont des jeux, en fait, où on a quasiment jamais besoin de la manette, si ce n'est pour faire des choix à l'écran. Mais du coup, on n'a plus cette notion de connaître la maîtrise de la manette, quoi. Et alors évidemment, la majorité des jeux ne sont pas aussi radicaux dans leur choix d'intention et réunissent expérience par la narration et expérience par le gameplay. Et d'ailleurs, pour finir sur ces aspects théoriques, l'appréciation d'un titre pour son expérience, je vous rassure, c'est pas un indicateur de qualité. Chacun a le droit d'aimer ce qu'il veut, il n'y a pas de bon ou de mauvais jeu pour ça. C'est vraiment des goûts et des couleurs.
Alors, donc, vous qui êtes doctorant en histoire, pouvez-vous nous dire comment le jeu vidéo et ses notions peuvent être étudiées lors de la recherche?
Et voilà, parce que évidemment, je suis là aussi pour parler un peu de science.
Oui, n'est-ce pas?
Quand même, et pas que de jeux vidéo, je vous promets. Mmh. Donc voilà, pour moi, en tant qu'historien, le jeu est une source comme les autres. Ce média, il raconte un point de vue sur le monde. Pour les sciences humaines, il y a des phénomènes à interroger et à étudier. Par exemple, l'histoire des joueurs, l'histoire des pratiques qui se diversifient via le jeu vidéo. Le jeu vidéo et cette industrie, elle est porteuse d'histoire. De la fabrication du produit jusqu'à la réception du jeu chez le joueur, il y a des moments qu'on peut étudier. Et cette nouvelle pratique du jeu, ça peut interroger sur nos sociétés, nos habitudes. Par exemple, qu'est-ce que le jeu modifie dans notre société? Notre rapport à l'écran, par exemple. Et voilà, pour un peu finir tout ça, pour reprendre un peu tranquillement, je vais vous citer deux chercheurs français qui travaillent sur la représentation de l'histoire par le jeu.
Donc, c'est Julien Lalu et Romain Vincent.
Voilà, que je salue s'ils m'écoutent.
N'est-ce pas? Vous faites très bien, Michel Drucker.
Donc voilà, eux, ils travaillent sur la représentation de l'histoire dans l'industrie culturelle, dans le jeu vidéo, entre autres. Et c'est extrêmement important en tant qu'historien de bien comprendre ces représentations, ce storytelling. Ça nous permet aussi de comprendre certaines idées, certains préjugés qui peuvent être ensuite créés et reportés via des création culturelle. Et à titre personnel, pour moi, l'étude de la représentation me semble un sujet qui touche tous les historiens. C'est important de comprendre que des enjeux se jouent avec ces nouvelles écritures. Et je vais prendre un exemple. Call of Duty World War II, c'est un jeu qui s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires à travers le monde. Il y a des centaines de millions de personnes qui ont vu ce jeu, joué à ce jeu. Donc, on peut dire qu'il y a vraiment quand même une masse importante de joueurs, de personnes, qui se sont créés aussi leur vision de la Seconde Guerre mondiale à travers ce jeu vidéo.
À travers ce jeu, oui.
Donc, c'est à mon sens pour ça que c'est important d'étudier, de comprendre ces mécanismes et qu'est-ce qu'il y a derrière ces jeux, vu qu'ils ont un impact culturel sur l'ensemble de la planète.
J'allais parler de vecteur culturel, dit impact, voilà. Effectivement.
Ouais. Comme n'importe quel média. Et pour conclure, je finirai sur une phrase de Romain Vincent qu'il a écrite justement sur son blog après un travail de décryptage du récit historique sur le jeu Call of Duty World War II. Tout ça me pousse encore une fois à dire qu'un jeu vidéo ne peut être un livre d'histoire et que si on persiste à se tromper dans l'étude de ce médium, on ne sera qu'irrémédiablement déçu. Il me semble bien plus intéressant de se demander pourquoi les développeurs font tel ou tel choix, plutôt que de leur taper sur les doigts et de juger leur jeu à l'aune de leur utilisation du passé en mettant de côté l'aspect ludique.
La chronique de Simon Chupin.
Non, pas vrai. Yes, si. Bâche, pas vrai. Ça va, voyons. Oh, et yo, chabrai. Vena sam, vena, aïe, se brache. Na, so, se bimaye, voyons, so. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never leave without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you did me wrong and I got strong. I learned how to get along and so you're back from out of space. I just walked in to find you here with that sad look on your face. I should have turned my fucking luck. Would have made you leave your key if I had not for just 1 second. You'd be back to bother me on a go. Walk out the door, just around now. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I crumble? Did you think I lay down and die? Oh no, I will survive. Yes, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I got all my life to live. I got all my life to give. I will survive. I will survive.
Chloé Lacan, artiste française recommandée par Sébastien Berger quand je lui ai demandé en préparant cette émission un morceau d'accordéon. Il paraît qu'elle est encore mieux quand elle chante en français, mais là elle fait une curieuse interprétation de I Will Survive, l'immortelle chanson de la Coupe du Monde de 1998, chanson interprétée à l'origine par Gloria Gaynor.
Bravo à elle. Et pourquoi vous avez demandé à Sébastien de nous passer de l'accordéon? On n'est pas à Radio Fontaine.
Non, on n'est pas à Radio Fontaine, mais bon, ce sont nos amis ici à RKS. Oui, Simon, ça n'est pas pour vous parler d'Anne Sylvestre décédée la semaine dernière que j'ai demandé du piano à bretelles, vous vous en doutez. Et pourtant, Anne Sylvestre est décédée cette semaine, personne n'écoutait plus « J'ai un haricot dans l'oreille, il est fort et gros » et aucune autre de ses très belles chansons, mais elle est quand même célébrée comme l'une des plus grandes chanteuses françaises. Il faut parfois se féliciter de pouvoir faire la couverture de Télérama, surtout quand on ne vend rien.
Et donc, l'accordéon dans tout ça.
Ah oui, pardon. Alors, j'ouvre les guillemets. Le 27 mai 1974, un homme grand, mince, en tenue de ville, franchit d'un pas vif le porche de l'Élysée. Il a laissé la voiture qu'il conduisait lui-même à 200 mètres pour terminer le chemin à pied. L'homme vient d'être élu président de la République française. Il se veut moderne en ce jour d'investiture et le programme, sans la moindre modestie, de ce jour. Date une ère nouvelle de la politique française. Rappel Libération, qui rend donc hommage, comme toute la presse cette semaine, à Valéry Giscard d'Estaing, ancien président de la République, et aussi grand échalas de Chanonat, malheureusement pour lui, décédé cette semaine de la Covid à l'âge respectable de 94 ans néanmoins.
Alors François, c'était une très belle imitation de Giscard, hein, mais je crois que vous vous égarez un petit peu. Pourquoi on parle de Giscard dans une émission de culture scientifique ?
Eh bien, figurez-vous Simon que j'ai eu la curiosité de googler Giscard et la science, et le truc m'a répondu. Si, si, d'abord Giscard c'est l'espoir, l'astuce, la sérendipité. Le Huffington Post nous rappelle que VGE et son gouvernement sont à l'origine de la fameuse formule « En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ». Le slogan a été lancé pour accompagner les premières mesures de changement d'été, hiver-été, dans le but de limiter la consommation d'énergie en 1976. C'était un bel exemple de storytelling positif face à la crise pétrolière, une sorte de médiation publicitaire en réponse à des enjeux économiques et aussi scientifiques.
On parle d'une époque où le béton coulait à flot pour des logements sans isolation et chauffés à l'aide de radiateurs qui s'apparentaient à des grippes, hein.
Étrange période, déroutante période que celle que nous avons traversée et qui n'a pris fin qu'au début des années 70 où tout se passait comme si la quantité exerçait son redoutable empire sur la qualité par une sorte d'inversion perverse des valeurs, relève Giscard en juillet 1980 lors de la clôture du 26e Congrès géologique international. Le Huffington Post raconte qu'il a quand même réussi à nous planter Internet. Ben oui, une forme de premier crash informatique. En 1978, VGE donne la priorité au Minitel. Il dit non au projet expérimental baptisé Cyclades. ARPANET, le projet américain homologue, utilise certaines découvertes françaises et continuera le développement de sa propre technologie. Elle donnera naissance à Internet, mais aux États-Unis. Et les décisions de VGE semblent avoir laissé une trace plus intense en technologie industrielle qu'en recherche scientifique, oui. L'énergie nucléaire, le TGV, la création du musée d'Orsay, bien sûr l'interruption volontaire de grossesse ont été des marqueurs déterminants de son septennat, relève Sciences et Avenir. On pourrait plutôt dire que ce sont des marqueurs de l'époque, tant ces aventures technologiques se sont développées sur des décennies. Par exemple, pour le TGV, les protos du train à grande vitesse sur rail sont commandés en 1969, tandis qu'on met au placard un projet sur coussin d'air développé depuis les années 60 par l'ingénieur Bertin. Et les caractéristiques du carnet de commandes ont été établies dès 1972, avant donc l'accession au pouvoir de Valéry Giscard d'Estaing. Et la toute première rame de TGV, nommée Patrick, a pris sa retraite définitivement cette année, en 2020. Quant au nucléaire, le plan date des années 50 et on n'a toujours pas terminé de construire et de raffiner notre parc de centrales. Mais c'est tout de même sous Giscard qu'on est passé de la recherche technologique à l'ère industrielle. Le nucléaire nous a chauffés, tant au plan thermique qu'au plan sociétal, mais il a aussi permis de structurer des pans entiers de la recherche de la médecine pour l'imagerie, le diagnostic, le soin des cancers par exemple, à l'astrophysique spatiale ou à la chimie. Alors peut-être que le temps des projets technologiques n'est pas celui des présidents, et le pauvre Giscard, lui, il n'en a eu qu'un seul de mandat. La période est marquée par la succession de deux chocs pétroliers qui mettent brutalement fin aux 30 glorieuses, remarque Le Monde, pour qui, au fil des épreuves, le bourgeois éclairé, Giscard donc, auquel tout a réussi, se mue en un monarque distant et capricieux. Et pour terminer cette séquence, je voudrais rendre hommage aux armées de l'ombre des présidents, les scribes, les conseillers qui savent toujours écrire de belles phrases pour nos chefs. Il est toujours utile de consulter les discours des uns et des autres. VGE n'y échappe pas, c'est ainsi que lors de la clôture du colloque mondial Biologie et devenir de l'homme en 1974 à Paris, il avance le besoin d'une morale de l'espèce. Je cite. Dans un monde soumis au hasard, apporter un peu plus de nécessaire. Dans un monde soumis à la fragilité, apporter un peu plus de la puissance humaine. Dans un monde trop souvent enclin à la résignation, faire prévaloir un peu plus de volonté. Dans un monde devenu plus âpre et plus violent, apporter un peu plus de compréhension, de douceur et de solidarité. On sent là pointer la main de fer dans le gant de velours. Alors j'ignore si le texte est issu de la réflexion de Valéry Giscard d'Estaing lui-même ou bien de celle de ses conseillers. Et quoi qu'il en soit, en bon français que je suis, j'aime à jouer les Cassandres et je sais toujours me désoler de mon sort. Je dirais donc, pour conclure et pour faire une formule, que je serais tenté de penser qu'aujourd'hui, la main n'est plus en fer et que le gant n'est plus en velours. C'était Le Miroir des Sciences, une émission de François Legrand et Sébastien Berger avec Simon Chupin à la chronique. Merci à Marine Legrand et Louise Raguet pour cette déambulation parisienne. Dans la dernière lettre d'actu du programme Okapi, ses promoteurs proposent de réfléchir à la façon dont nos excrétions nous connectent à notre environnement et aux personnes qui s'en occupent dans la société. Le 18 décembre à 9h30, vous pourrez vous connecter en visioconférence à la soutenance de thèse de Tristan Martin qui montrera entre autres les bénéfices en termes de gaz à effet de serre d'une reconnexion de nos urines avec les sols cultivés. Le lien de la visioconférence sera indiqué dès que possible sur le site internet Okapi. Pour en savoir plus sur Okapi, vous cherchez sur internet O-C-A-P-I suivi du mot-clé pipi. Et en tapant Pipi Marcel avec deux L, vous retrouverez la pipi sautière sèche pour les filles de Louise Raguet. Sur le blog de l'émission que vous trouvez simplement en tapant Le Miroir des Sciences sur votre navigateur préféré, vous pouvez nous réécouter. Vous pouvez nous réécouter aussi sur les principaux flux de podcasts et puis sur la chaîne SoundCloud dédiée à l'émission et bien sûr sur le site de RKS. À bientôt sur RKS, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Ciao.